un fleuve coule du côté du Seigneur. Un fleuve de sang qui fait encore des miracles aujourd'hui. Oh, ce fleuve précieux du sang rouge du Seigneur. Ce fleuve rouge, lavé dans le fleuve rouge du sang du Seigneur. Il purifie le cœur et transforme et régénère entièrement. Oh, lavé dans le fleuve rouge du sang. Rouge de sang. Oh, pécheur, ce fleuve coule encore aujourd'hui pour toi. Immerge-toi et sois purifié entièrement. Lavé par le sang de l'agneau. Pour expérimenter le salut et vivre éternellement. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur. Et renouvelle entièrement la vie. Oui, le fleuve rouge de sang. La puissance, la force de ce sang, encore aujourd'hui, purifie chacun du péché, libère des fardeaux. Mais il faut s'immerger entièrement dans l'obéissance et se laver et devenir plus blanc que la neige. Laver dans le fleuve rouge de sang. Dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur. Oui, il renouvelle entièrement. Oui, lavé dans le fleuve rouge de sang. Ce fleuve produit une double œuvre. Il pardonne du péché et des fautes et sanctifie, purifie le cœur et renouvelle entièrement. Et il permet à l'homme péché de se tenir devant Dieu dans la miséricorde. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur, oui, il renouvelle entièrement. Plein salut, oh loué soit Dieu. Que cela soit aujourd'hui ma solution. Racheté et sanctifié, je le suis par le sang. Qui une fois a coulé à Golgotha, lavé dans le fleuve rouge de sang. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur. Il transforme entièrement. Transforme entièrement. Ce fleuve coule encore aujourd'hui, plein de grâce, de manière nouvelle. Ô pécheur, viens et lave-toi dans ce fleuve. Le Seigneur te fait un signe et t'appelle. Demain, ce serait peut-être trop tard. Ça pourrait être déjà trop tard. Viens aujourd'hui et lave-toi dans le fleuve rouge de sang. Lave-toi dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur et renouvelle entièrement la vie. Père céleste, nous te remercions de la profondeur de notre cœur pour ce soir, pour ce jour que tu nous as accordé de nouveau. Et nous te demandons, viens parmi nous. Accorde ta présence à chacun. Sois proche de chacun de nous à cause de ton nom. Tu sais ce dont ton peuple a besoin, ce dont nous avons besoin. Parle avec nous par ta sainte et précieuse parole. Nous te demandons cela dans ton merveilleux nom de Jésus. Et nous te remercions déjà à l'avance pour tout le bien que tu as préparé pour nous. Reçois la louange, l'adoration et la reconnaissance. Nous te remercions, Seigneur, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Nous avons aussi des requêtes pour une sœur de la Pologne qui est malade, qui a le cancer. Elle demande qu'on prie pour elle, pour la guérison. Nous ne pouvons pas guérir, mais nous savons que Dieu peut guérir. Le Seigneur peut guérir. Et aussi un frère demande qu'on prie aussi pour la prière, pour la guérison. Nous allons remettre tout cela au Seigneur, lui dire tout et mettre cela entre ses mains. Car lui, toutes choses lui sont remises et toutes choses lui sont possibles. Il peut faire les choses comme il veut. Nous n'avons aucune influence, nous apportons tout devant lui et lui sait ce qu'il a à faire. Loué soit son merveilleux nom. Ensuite, nous avons un bébé qui a 2 jours, appelé Rebecca. Et elle a une erreur de cœur. Et cela a été déterminé par les médecins que l'enfant doit mourir. Mais c'est le grand médecin qui décide et qui détermine. Nous voulons lui remettre tout, aussi cet enfant. Nous allons commencer cette réunion en chantant ensemble le cantique 499. Cantique 499. Ne crains pas, ne continue pas à craindre. Regarde, je suis avec toi. Ne crains pas, regarde, je suis avec toi. Ça, c'est ma lampe dans le chemin ici. Par les nuages, il promet la lumière. Voici, je suis auprès de toi, je suis avec toi. Et je ne t'abandonne pas. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. C'est ainsi que le Seigneur me l'a promis. Jamais il ne nous laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. C'est ainsi que le Seigneur nous l'a promis de ne nous laisser jamais seul, de ne jamais nous laisser seul. Que les fleurs puissent pétrir. Et que les nuages s'obscurcissent. Il demeure le même. Jésus, mon refuge, lui, mon rayon de soleil. On n'abandonnera jamais. Il ne nous laisse jamais seuls. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. C'est ainsi que le Seigneur nous l'a promis. Il ne nous laisse jamais seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. C'est ainsi que le Seigneur nous l'a promis. Il ne nous laisse jamais seuls. Même si le sentier est parfois obscur et beaucoup ici et beaucoup de choses ici nous menacent, je l'entends encore dire, enfant, je suis avec toi. Là-bas, je contemplerai la face de Jésus. Alors cela retentira. Non, il ne nous abandonne jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. C'est ainsi que le Seigneur nous l'a promis. De ne nous laisser jamais seul. De ne nous laisser jamais seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. C'est ainsi que le Seigneur nous a promis de ne nous laisser jamais seuls. Loué soit le Seigneur. Nous venons d'entendre une parole merveilleuse. Nous sommes ici pour, d'une manière nouvelle, rencontrer et expérimenter Dieu. Vraiment, d'une manière nouvelle, l'expérimenter. Et aussi des guérisons ont lieu encore aujourd'hui. Notre frère Müller du Chili peut aujourd'hui est venu aujourd'hui dans le bureau et disait, frère Franck, il y a une année d'ici, alors que tu étais parmi nous au Chili, tu as prié pour moi et Dieu m'a guéri. Où est le frère Müller? Ça, c'est le frère. C'est le frère Müller. C'est un témoignage glorieux de ce que Dieu a fait. Que Dieu te bénisse. Seulement pour vous encourager, pour tous ceux qui ont une requête. La parole de Dieu est vraie. Toutes les promesses sont oui et amen. Et nous pouvons réellement prendre Dieu à sa parole. Sentez-vous bien dans la présence de Dieu et que toute la salle et nous tous, nous soyons réellement consacrés au Seigneur pour qu'aujourd'hui, il puisse, avec nous tous, recevoir ce qui lui revient de plein droit. Mettez votre confiance en lui. Nous venons justement, de manière juste et correcte, d'entendre. Ce n'est pas le message d'un homme, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu, c'est le message divin adressé à nous tous. Particulièrement, nous saluons et souhaitons la bienvenue, particulièrement de manière fraternelle, à un couple qui vient de loin d'ici, de l'Australie, Sydney, de l'Australie. Nous vous souhaitons la bienvenue. Où sont le frère et la sœur Lynn? Où sont-ils? Ah, ici. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le frère et la sœur Lynn. Les deux sont d'origine chinoise, nés à Singapour. Ils ont étudié en Angleterre, sont partis ensuite en Australie. Et notre frère et notre sœur sont responsables de ce que dans la langue chinoise, ils soient traduits. Ils ont traduit déjà les trois premières brochures, crois seulement au ainsi dit le Seigneur, et impact de la révélation et le temps est proche, le temps est proche. Et ainsi, dans cette langue la plus parlée en Chine, c'est le mandarin, et c'est ainsi qu'ils font en sorte que aussi le frère Branham, les prédications du frère Branham dans cette langue mandarine soient traduites, qui dans une grande partie de la Chine et aussi à Hong Kong et à Singapour est parlée. Nous vous souhaitons la bienvenue, nous nous réjouissons de ce que vous êtes ici et que Dieu vous bénisse très particulièrement. Ensuite, nous avons des frères ici, de loin et de près, le frère Ondrashek de Bratislava, le frère Kukacak de Prague, et nos frères de Paris, le frère Gilbert et le frère de Montreuil, qui est responsable pour traduire tout dans la langue française. Nous sommes reconnaissants pour de tels frères. Ensuite, nous avons notre frère Elijah, ici, qui était dans les réunions à Bujumbura et particulièrement aussi à Kigali, était présent. Où est le frère Elijah? Ça, c'est notre frère Elijah, vraiment un homme de Dieu. Nous avons dans 5 pays de l'Afrique eu des réunions merveilleuses, en commençant à Nairobi et ensuite à Kigali, ensuite en Bujumbura. Nous sommes revenus à Kigali et ensuite à Nairobi, Dar es Salaam et plus loin à Johannesburg, et ensuite nous sommes allés jusqu'à Kapstadt. C'est ainsi que en tout j'ai visité 5 pays en 12 jours. J'ai eu 12 réunions, chaque dimanche 2 réunions, et avec cela le temps a été utilisé. Et la petite réunion à Nairobi, à peu près 150 personnes, la plus grande à Kigali, à peu près 4500 personnes. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Notre frère, tout à l'heure, vient de me dire qu'il y avait 2 groupes qui ne s'harmonisaient pas l'un avec l'autre, et que Dieu a accordé sa grâce et qu'ils ont été joints ensemble, et cela me réjouit en fait. Je suis réellement responsable d'aucune division sur cette terre. Si je peux même encore apporter ma contribution que ces différents groupes-là s'unissent, alors que le nom du Seigneur seulement soit élevé et glorifié. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous allons pas pouvoir aujourd'hui nous occuper de la partie politique. Nous prions pour Israël. Nous portons des soucis pour aussi ce que ce parti Hamas, en ce qui concerne ce parti d'Hamas, Hamas qui a déclaré ouvertement comment est-ce que cet homme à Téhéran a dit que Israël n'a rien à faire ici sur terre, mais que Israël a disparaître dans la mer. Des personnes qui, avec ironie, renient l'Holocauste. Des Juifs disent simplement, s'il y avait eu un Holocauste vraiment, alors les Juifs ne seraient pas ici aujourd'hui, n'existeraient pas aujourd'hui. Ça va trop loin. Ce que des hommes se permettent de dire et de faire et de penser et ce qu'ils disent. Et nous sommes de cette conviction que Dieu va rétribuer, va régler le compte, et qu'en ce moment il fait que regarder jusqu'à que la mesure soit pleine, Et quand la mesure sera pleine, alors ça débordera. Nous avons aussi entendu comment est-ce que les choses vont avec terrain. La Chine et la Russie vont faire en sorte ensemble qu'avec Téhéran, tout soit en ordre. Quelque chose de très bien. L'Est et le Nord ensemble et avec tout le monde arabe et islamique. Nous avons déjà écrit sur cela, nous n'avons plus besoin d'entrer dans les détails de ces choses. De toutes les manières, nous pouvons réellement observer la prophétie de la fin des temps pas à pas et voir comment est-ce que tout ce qui a été prédit à l'avance s'accomplit réellement. Ensuite, nous avons aussi des coupures de journaux. Certaines d'elles vraiment nous occupent avec douleur. Le Ave Maria prié dans les églises protestantes, presbytériennes, méthodistes et baptistes. Tous devraient reprendre le Ave Maria. Tous devraient aussi vénérer, apporter leur vénération à Marie. Cette page écrit, comment est-ce que cela est à faire pour que justement le rapprochement entre l'Église romaine catholique et les églises, les grandes églises protestantes puisse être possible et avoir lieu et aller de l'avant. Et ensuite, ce grand Hail Mary, donc Ave Maria, et c'est ainsi que cela est vénéré et élevé. Et nous savons ce que tout cela signifie. Les filles, les églises filles, selon Apocalypse 17, repartent dans le sein de la mère. Et ici, Apocalypse 17 trouve son accomplissement. Mais il y a encore quelque chose ici, aussi venant du Vatican. Il est dit ici, Vatican, ce n'est pas le nombre 666, mais le nombre 616, qui est le nombre de Satan. Tous vous connaissez Apocalypse 13, le dernier verset de ce chapitre, 666, le nombre d'un homme, pas d'un ordinateur, mais d'un homme, c'est ainsi que c'est écrit dans la Bible, dans Apocalypse 13, les derniers versets. Mais ici, ensuite, la menace est même faite que nous n'avons plus le droit de prétendre que ce nombre 666 est le nombre de Satan, comme c'est écrit dans la Bible, mais le nombre 616. Oui. Mais notre décision est déjà prise depuis longtemps. Elle est ferme. Nous disons seulement ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu dit est écrit dans sa parole. Et tout le reste n'est pas pour nous. Et que Judas soit béatifié, cela dépasse toute mesure. Le Vatican veut que Judas soit béatifié, soit déclaré sauvé, sauvé. Et ensuite, le jour arrive où même il appartiendra au saint et pourra être invoqué pour que tous ceux qui sont dans les problèmes d'exercer de la trahison, que Judas puisse les aider aussi. Je ne sais pas à quel point les choses devraient aller, Dieu le sait, Dieu le sait. Et la chose la plus grave, c'est qu'un grand rabbin a exprimé ce souhait, ce désir, est-ce que je devrais le dire, est-ce que je ne devrais pas le dire, que pape Pie XII soit inscrit entre la rubrique des justes de la nation d'Israël, à Yad Vashem. Pour tous ceux qui ne le savent pas encore, Yad Vashem est l'endroit en mémoire de l'Holocauste où tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le temps du Troisième Reich, en meurtre de ces 6 millions de Juifs, le pays, la ville et le nombre, tout a été conservé, écrit en grand, en tableau. Et tous ceux qui, pendant ce temps, ont soutenu les Juifs et d'une manière ou d'une autre les ont aidés pendant ce temps, ces noms-là sont inscrits dans le registre d'honneur des justes de la nation, ou bien des nations. Et ensuite, ce grand rabbin voudrait que Pie XII, ce pape de l'époque, duquel il est dit que, en se taisant, il a évité beaucoup de choses graves. Je ne veux pas ici m'exprimer, soi-disant en ne disant rien. Mais ça montre, n'est-ce pas, que les Juifs sont frappés d'aveuglement, si ce n'est que Dieu se révèle à eux. Mais c'est ainsi que nous prenons connaissance de toutes ces choses qui se déroulent. Et peut-être que cela soit aussi à sa place ici à mentionner que nous avons l'intention de planifier, nous planifions, mais nous ne faisons que planifier un voyage en Israël et nous disons, Dieu voulant, du 8 mai jusqu'au 19 mai, le prix est 1620 euros, ce n'est pas un secret, pour tout le voyage, compris le temps là-bas. Et nous voulons dire à tous ceux qui veulent prendre part à ce voyage, qu'ils puissent nous le dire pendant ce week-end encore, car si le nombre des personnes n'est pas atteint, le voyage devra être annulé et tout le reste ainsi entre les mains du Seigneur et entre les mains du futur. Encore une fois, nous voulons le répéter. Nous voyons en tout ce qui se passe que réellement nous sommes arrivés dans la dernière phase de la fin des temps et vous savez tous, nous avons jamais en cet endroit tenu ne serait-ce qu'une seule prédication sur la Marguédon et nous allons dans tout le futur jamais le faire. Cela de manière internationale m'est reproché que je prêche la Marguédon et que je crée une atmosphère de fin des temps. Non, pas une atmosphère de fin des temps, mais à la fin des temps, être apporté en accord et en harmonie avec Dieu et sa parole. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pas d'effrayer et de faire peur aux hommes, mais comme notre Seigneur, dans Matthieu 24, au verset 33, a dit, « Quand vous verrez que tout cela s'accomplit, alors vous savez que cela est proche, oui, que c'est devant la porte. » Marc 13, verset 29, la même chose. Quand vous verrez que tout cela est proche et arrive, alors vous savez que c'est proche. Luc, chapitre 21, verset 31, aussi exactement la même chose. Que Dieu le Seigneur aussi puisse bénir tous ceux qui écoutent, qui regardent, et aussi nos amis au Chili. Bon, quelques versets bibliques. Nous avons entendu la parole d'introduction de 2 Pierre chapitre 1, faisant mention de Matthieu 3 et aussi faisant mention de Matthieu 17 et à cela que réellement il soit dit de manière nécessaire que rien ne se passe de manière automatique. Et comme l'Américain dit que nous n'avons pas le droit de prendre quelque chose comme ça, comme allant de soi, nous devons expérimenter personnellement une expérience du salut avec Dieu. L'Esprit de Dieu doit nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. l'Esprit de Dieu doit pouvoir nous conduire à la repentance. Si Pierre, dans sa première prédication, dit « Repentez-vous », ça c'est la prédication. Mais ce que l'Esprit de Dieu, lui, produit, qui est convainc du péché et de la justice, et donc du jugement et de la justice, ça c'est donc l'effet par l'Esprit de Dieu en ceux qui écoutent pendant la prédication. La prédication doit avoir un effet et ensuite s'accomplit ce que nous lisons dans Matthieu 3. Et ça, c'est l'ordre. Il nous appartient d'accomplir toute justice. Et Jean baptisait notre Seigneur. Et c'est après que le ciel s'est ouvert et que l'Esprit s'est répandu et que ensuite la voix a retenti. Celui-ci est mon bien-aimé, mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé toute mon affection. Ça, c'est l'ordre des choses qui aussi doit avoir lieu avec nous. Le Fils de Dieu en tant que modèle pour tous les fils et les filles de Dieu. D'abord, quand nous écoutons la prédication, comme déjà mentionné, par l'Esprit de Dieu, nous sommes convaincus du péché, de l'incrédulité, de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Nous sommes convaincus par l'Esprit de Dieu, sous l'écoute de la parole. Et ainsi, une conversion est possible. Un retour de tout notre cœur par la grâce de Dieu est expérimenté de nous. Un retour à Dieu et à sa parole. Et ainsi, nous recevons la certitude que nous sommes réconciliés avec Dieu. Un retour dans ce qui ne va pas. Et c'est ainsi que nous sommes convaincus que Dieu était en Christ, qu'il a réconcilié le monde avec lui-même et que le sang de l'agneau réellement sur la croix à Golgotha a coulé et que la vie qui était dans le sang, la vie de Dieu, la vie divine qui a été donnée pour nous par l'Esprit de Dieu est répandue et est manifestée en nous par la grâce de Dieu. Donc, d'abord, écoutez la parole. Notre Seigneur était la parole. Il n'avait pas besoin d'écouter encore la parole. Il était la parole. Il avait seulement besoin de mettre en pratique, d'accomplir toute justice. Nous devons écouter la parole d'abord, la parole originale. Et la foi ensuite vient de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Donc, ça, c'est l'ordre des choses. Si Pierre dit que nous avons entendu cette voix retentir alors que nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alors ça, c'est Matthieu chapitre 17. Et justement, dans Matthieu 17, notre Seigneur a donné la promesse du prophète Malachie. D'une manière tout nouvelle, il l'a confirmée. Il a confirmé cette promesse du prophète Malachie. La Bible est ordonnée de manière divine. Elle est ordonnée pas seulement dans l'exposé des choses, mais aussi en relation avec la parole prophétique. Nous avons ici, dans Matthieu 17, réellement, cet exposé merveilleux de ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration. Jacques, Jean et Pierre étaient allés avec le Seigneur. Et voilà, une nuée les a couverts. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée cette parole. Cela me plaît ici. Une voix retentit. C'est pas seulement une voix, mais avec retentissement. Avec retentissement. Et voici, une voix retentit fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Oui, et maintenant, ça suit. Maintenant, nous sommes mis à l'épreuve. Est-ce que nous lui prêtons l'oreille? Est-ce que nous l'écoutons réellement, lui, que nous devons écouter? Lisons pour voir au verset 10 et le verset 11. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ça, c'est la question. Justement, les disciples venaient de voir Moïse et Élie sur la montagne. Pierre voulait bâtir trois tentes, une pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. Car leur présence était réelle. Donc, c'est de cette manière réelle que Moïse et Élie étaient avec le Seigneur là-bas, sur la montagne. Et ensuite, la question a suivi, adressée à notre Seigneur, et s'il vous plaît, encore une fois, écoutez-le. Ça, c'est la fin du verset 5. Ça, c'était la réponse venant de la nuée lumineuse. Écoutez-le. De nous dire du Seigneur ne sert à personne, si ce n'est que dans la réalité, nous écoutons ce qu'il a dit et nous croyons ce qu'il a dit. Et c'est peut-être raison, justement, que ici, nous relevons au verset 11 la réponse qui suit. Il répondit, il est vrai, s'il vous plaît, comparez cela encore une fois avec le verset 5, la fin du verset 5. Écoutez-le. Et maintenant, le Seigneur donne la réponse. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Maintenant quoi? Qui est prêt à écouter ça? La plupart sont de cette histoire, la plupart donc sortent de cette histoire ceux qui veulent sortir, et sont eux-mêmes sortis de l'histoire, et ils disent que tout est déjà accompli. Mais ici nous avons le respect devant Dieu et la parole de Dieu. Si dans un verset il dit pour le futur que Élie doit venir ou bien viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif, ça, c'est Malachie 3, en français, Malachie 4, verset 5. Et ça, c'est vrai. Mais quand il fait mention de Jean-Baptiste, alors il peut dire, Élie est déjà venu faisant mention de Jean-Baptiste. Et ils ont fait de lui ce qu'il... Et ils l'ont traité comme ils le voulaient. Comme ils le voulaient. Les deux sont vrais. Jean a apparu dans l'esprit et la puissance d'Élie, mais cela n'a pas annulé ce que le Seigneur a promis, que Élie, avant le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel, apparaîtra. Bien-aimés frères et sœurs, comment est-ce que c'est important de prendre la parole de Dieu exactement et de laisser nos propres pensées à la maison et de nous ravir dans les pensées de Dieu, donc de nous placer dans les pensées de Dieu, car c'est ce qui est écrit dans Ésaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Nous devons avoir les pensées de Dieu en nous, les recevoir en nous. Et cela a lieu seulement par la révélation. C'est seulement comme ça que nous pourrons marcher sur le chemin de Dieu et marcher avec Dieu. Dimanche à Zurich, j'ai déjà dit, en relation avec trois versets de l'Ancien Testament, qui ensuite, dans le Nouveau Testament, sont redonnés. Et je voudrais rapidement les lire. Et ensuite, nous allons continuer dans l'observation de la parole. Dans le psaume 40, nous lisons à partir du verset 7, le psaume 40, à partir du verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici. Dans le rouleau du livre, il est écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. De faire ta volonté, c'est mon délice. C'est mes délices. De faire ta volonté, c'est mes délices. Ici, cette expression m'a touché le cœur. Voici, je viens. En allemand, me voici. Me voici. Il n'y avait aucun autre qui pouvait se mettre dans la brèche et intercéder. Personne n'était là. C'était écrit dans le rouleau du livre, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Et maintenant, il était lui duquel il était écrit qu'il viendra et il était venu. Voici, je viens. Me voici. Et ensuite, si nous allons dans Hébreux, le chapitre 10, nous avons réellement le complément glorieux et merveilleux. Il n'est pas seulement écrit « voici », donc « me voici » ou bien « alors voici, je viens », mais il est écrit ce qui appartient encore à cette phrase. Ce qui appartient encore à cette phrase. Hébreux, le chapitre 2, verset 12. Hébreux 2, verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'église. Ça, c'est le psaume 22, verset 23 directement. Et dans un autre verset, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et ici cette phrase, je ne termine pas, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Quelque chose de très merveilleux. L'Ancien et le Nouveau Testament dans l'harmonie. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. À partir du verset 16. J'enveloppe cet oracle, cette révélation dans mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Maintenant, écoutez bien. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Soyez sincères. Qui de vous, de nous, aurait pu trouver ces deux pensées-là de Ésaïe 8, verset 18 et le psaume 40, verset 7 à 9? Qui aurait trouvé ces deux pensées que Paul a conduites ensemble dans Hébreux? Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Seulement un verset à moitié a suffi. La deuxième partie. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Les prophéties bibliques sont enveloppées, elles doivent être révélées. Ce n'est pas possible autrement. Et si ensuite nous regardons encore rapidement dans Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, au verset 6, Hébreux chapitre 2, peut-être directement à partir du verset 9, Hébreux 2, verset 9. Mais nous voyons celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Pour tous. Et maintenant, suit le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui, et après avoir conduit à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Après qu'il ait conduit beaucoup de fils à la gloire, sur la croix à Golgotha, cela s'est accompli. Une pleine œuvre de rédemption et de salut pour tous les fils et les filles de Dieu. Le prix a été payé. Et le Fils de Dieu a conduit beaucoup de fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu, aux yeux de Dieu, à la gloire. Déjà conduit à la gloire aux yeux de Dieu. Au verset, dans Hébreux 2, au verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et particulièrement, notre Seigneur, après la résurrection, a dit, allez et dites à mes frères, je les précède en Galilée. Je vais à mon Dieu et à votre Dieu, à mon Père et à votre Père. Lui, le premier-né, il s'est donné pour nous. Il nous a rachetés. Bon, bien-aimés frères et sœurs, il s'agit maintenant de plus que ça, que seulement la rédemption, le pardon, de prêcher la rédemption et le pardon. Il s'agit réellement que tous ceux qui ont réellement expérimenté la grâce de Dieu, expérimenté le pardon de leurs péchés et qui sont réconciliés avec Dieu, tous, qu'ils puissent soient sanctifiés dans la vérité. Car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et c'est pour cette raison que l'appel à sortir de l'Église, de l'épouse Église, est l'ordre de l'heure. Est l'ordre de l'heure. Le dernier appel divin, le dernier message divin, et cela en relation avec Matthieu 25. Voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. En relation avec cela, l'édifice sur les fondements antiques de la véritable Église de Jésus-Christ, notre Seigneur, tous ceux dans toutes les dénominations ont le droit de placer leurs propres fondements et de bâtir en leur propre bâtiment et d'être occupés nuit et jour, qu'ils puissent continuent aussi à le faire comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur vraiment les appelle. Mais l'Église de Jésus-Christ a tout un autre devoir. C'est-à-dire, elle doit revenir à l'origine pour que tout de nouveau soit rétabli dans l'état primitif. Je voudrais pour cela aller dans l'Ancien Testament et lire justement comment est-ce que Dieu était avec ceux qu'il a appelés à revenir après que les 70 années de cette captivité annoncée à l'avance soient achevées et que le peuple d'Israël est revenu de la captivité. Deux Chroniques, le dernier chapitre, Deux Chroniques, le chapitre 36, à partir du verset 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Et ensuite, il est dit ce qu'il a dit et ce qui a suivi après. Esdras, le premier chapitre, à partir du verset 3. Esdras, le premier chapitre, le verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple, appartient à son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel là-bas. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem, qui habite à Jérusalem. Qu'est-ce que nous constatons ici? Que qui d'entre vous appartient au peuple de Dieu, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, dans la ville, à la ville que Dieu a choisie. Car de Jérusalem, l'enseignement devait sortir et la parole de Dieu de la montagne de Sion. Donc, si maintenant nous sortons de la captivité babylonienne, s'il vous plaît, pas pour encore former des nouveaux groupes ici et là et des organisations, mais de revenir à Jérusalem, de revenir à l'état qui existait au commencement, à l'état primitif, à l'origine, pour que le Seigneur puisse lui-même bâtir son Église et par sa grâce l'achever. Dans Esdras, le chapitre 5, nous lisons au verset 11. Esdras, le chapitre 5, verset 11. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Avons-nous lu? Ici, la déclaration a été donnée disant, nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a 20 années. Ce ne sont pas des serviteurs, ils n'ont pas été des serviteurs d'hommes. Ce n'était pas l'édifice d'une église. Mais l'édifice de la maison de Dieu, bâti sur le fondement, sur les fondements antiques à Jérusalem, la ville que Dieu a choisie. Ça, c'est maintenant une répétition. Israël se rassemble. Le temple va de nouveau être rétabli, reconstruit. Mais avant rétabli, donc reconstruit, mais avant que cela puisse avoir lieu, il faut que l'Église, qui de la même manière a été appelée à l'existence à Jérusalem, dites-moi s'il vous plaît, où est-ce que notre Seigneur a été crucifié? Où est-ce que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu? Où est-ce que le fondement de l'Église du Nouveau Testament a eu lieu? Est-ce que cela a eu lieu à Tel Aviv ou bien à Jéricho? Non. Ça a eu lieu à Jérusalem, dans la chambre haute, où le peuple de Dieu était rassemblé et le royaume de Dieu a apparu. Et le salut de Dieu a été accordé à l'humanité. Donc, les deux, le peuple d'Israël en tant que peuple élu naturel et l'Église de tous les peuples, les langues et les nations, les deux ont leur origine là-bas, l'un dans le domaine naturel, l'autre dans le domaine spirituel. Mais déjà le jour de la Pentecôte, il y avait eu 16 différentes nations rassemblées à Jérusalem et ils ont dit tous, nous les écoutons, chacun de nous parler dans la langue natale dans laquelle nous sommes nés. Donc Dieu a lui-même fait en sorte que le jour du fondement de l'Église du Nouveau Testament, tous sont venus de loin et de près, se sont rassemblés et ont expérimenté personnellement la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, cela se répète dans notre temps. L'Église de Jésus-Christ est bâtie sur le fondement primitif qui avait été placé au commencement, d'une manière nouvelle. De nouveau, pour que tout de nouveau devienne tel que c'était au commencement. Tous nous croyons que le temple va être rebâti parce que cela a été créé ainsi. Dans le prophète Ézéchiel, dans le prophète Zacharie, dans l'Apocalypse, le chapitre 11, cela est écrit que le temple va être rétabli, mais reconstruit. Mais maintenant, il s'agit réellement du temple de Dieu, de l'Église, constitué de tous les peuples, les langues et les nations. Et nous ne venons pas nous rassembler pour écouter quelque chose de quelconque, mais nous venons pour écouter le message de ce temps, pour ce temps. Et si souvent, combien de fois je devrais encore le répéter, nous avons, selon l'état actuel, qui demeure dans les dernières années à peu près pareil, nous avons 347 différentes confessions et dénominations, mais il y a une seule Église du Dieu vivant. Il y a une seule Église de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous avons tous lu que notre Rédempteur a conduit à la gloire beaucoup de fils. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 27 que notre Seigneur va faire paraître devant lui une église sans tache, sans ride et irréprochable. Une église rachetée par le sang de l'agneau qui a le pardon, qui a la réconciliation, la grâce et le salut. Une église qui a expérimenté toutes ces expériences-là personnellement avec Dieu. Jusqu'à que cette voix retentisse. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Ça, c'est en fait Actes des Apôtres, chapitre 2. Et ça n'a aucun sens de seulement lire le verset 38. On doit lire le verset 39, au moins jusqu'au verset 41. Car au verset 39, c'est la confirmation du verset 38. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui sont encore au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Alors si, pendant ces jours, il nous a appelés en tant que personnes qui, avant même la fondation du monde, ont été élus et déterminés à voir la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, alors ça veut dire que nous avons le droit sur chaque promesse. Et ainsi, c'est ainsi que cela commence en fait. Car d'abord, c'est seulement quand l'Église sera revêtue de la puissance d'en haut, c'est seulement comme ça que les dons et les fruits de l'Esprit pourront devenir visibles. Auparavant, nous faisons que nous efforcer, parfois cela nous réussit, parfois ça ne nous réussit pas. Mais alors, cela s'accomplira. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Alors, la vie divine, la vie de Dieu, sortant du sceptre, se manifeste dans les sarments, et c'est ainsi que cela est manifesté par les branches, et c'est ainsi que nous devons revenir à ces choses. Que réellement, ce ne soit pas seulement que nous observons la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu, mais que nous puissions réellement l'expérimenter de cette manière telle qu'elle nous a été transmise. Qui est pour cela? Qui? Je pense, oui, je pense tous. Tous, bien sûr, je pense tous, nous sommes pour cela. Dans Esdras, le chapitre 7, nous lisons encore la deuxième partie du verset 12. Esdras, chapitre 7, verset 12. Artaxerxès, roi des rois, c'est ainsi que c'est écrit ici, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. Donc, en allemand, c'est écrit Estra, un sacrificateur parfait, un sacrificateur et scribe parfait, versé dans la loi du Dieu des cieux. Ici, nous avons écouté, nous avons lu d'une parole faisant mention d'un homme, qu'en fait, on ne peut pas utiliser de cette manière. Estra, qui était un enseignant parfait, un docteur parfait dans la loi du Dieu du ciel. Un docteur parfait dans la loi du Dieu du ciel. Scribe, non, sacrificateur. Parce que nous savons que tout ce qui est parfait vient de Dieu. Et si Dieu a déterminé quelqu'un, alors ce n'est pas la position ou bien ce n'est pas une chose en partie qui vient de l'homme, mais c'est pas à pas parfait dans les choses que Dieu nous a révélées. Ce que Dieu a révélé est parfait. Et c'est sa parole révélée que nous prêchons. C'est ainsi que nous croyons que la parole de Dieu et la volonté de Dieu ont été révélées. Et nous croyons que les prophètes et les apôtres n'ont pas apporté des choses à moitié, en partie, mais nous ont apporté la parfaite parole de Dieu, nous ont transmis la parfaite parole de Dieu. Ce que Isaïe avait dit. Et la parfaite volonté de Dieu, parfaite parole de Dieu. Ce que les prophètes ont dit, c'était pas des opinions ou bien d'hommes, c'était la parole de Dieu. C'était la parfaite parole de Dieu. De la même manière, avec aussi les apôtres. C'est la parole de Dieu qui nous ont transmis. Et si Paul, ici, vient à parler de ça et dit que le mystère, par la révélation, par la grâce de Dieu, lui a été transmis. Alors, et accordé, donc nous savons qu'il sait de quoi il parle. La révélation est quelque chose qui a lieu entre Dieu et l'homme. La révélation ne peut pas être transmise, procurée à quelqu'un d'autre par un homme. La révélation doit venir d'une source de laquelle nous buvons. Et c'est ainsi que réellement, par la grâce de Dieu, cela nous est accordé. C'est ainsi que nous le croyons, que Dieu a toujours eu ses hommes, ses serviteurs. Et si nous disons, dans l'humilité, nous disons que Dieu, dans notre temps, a utilisé l'homme le plus simple, a pris l'homme le plus simple, qui ne pouvait même pas, qui parlait même pas un anglais correct. On appelle de telles personnes hillbilly. En anglais, un homme qui parle comme cela lui est grandi dans la bouche. Et Dieu a utilisé. Donc il avait sa propre grand-mère. Et Dieu a utilisé une telle personne pour que sa parole parfaite qui demeure éternellement, contenant toutes les promesses pour cette époque dans laquelle nous vivons, qui appartiennent à l'époque, pour que tout cela soit révélé. Sachant qu'une telle personne n'aura pas ses propres pensées. Mais un tel Dieu a veillé sur nous. Nous qui croyons le message divin, il nous a accordé la même révélation. Soyez sincères. Ce qui, autrefois, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, a été révélé à Pierre, nous a été révélé à nous aussi, oui ou non, oui ou non. Ça nous a été de la même manière aussi révélé, comme cela lui a été révélé. Allez à tous les autres versets. Allez à Paul. Quand il parle du retour du Seigneur, que ce soit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, ou alors dans d'autres versets, soyez sincères, est-ce que Dieu ne nous a pas révélé la même chose, tout ce qu'il a révélé à Paul? Est-ce qu'il y a une seule parole qui serait restée obscure? Est-ce que Dieu n'a pas révélé tout son conseil du salut? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ah non, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Quand des hommes s'assis, des hommes sont assis au pied d'un Gamaliel, ça c'est une chose. Mais s'ils sont assis au pied du Seigneur, alors ça, c'est tout à fait une autre chose. S'il vous plaît, pensez à cela. Vous tous qui appartenez à son peuple, montez à Jérusalem et bâtissez la maison de votre Dieu de nouveau et rebâtissez, et c'est-à-dire sur les fondements antiques sur lesquels le premier temple s'était tenu. Qu'est-ce qui doit se passer avec nous, vous tous qui appartenez au peuple de Dieu? Vous qui réellement êtes devenus enfants de Dieu, vous, c'est à vous que Dieu parlera. Tous les autres n'en prennent pas part. Parlez avec un certain prédicateur, ou bien un évangéliste, ou bien un charismatique, sur les promesses pour ce temps. Voici, je vous envoie le prophète Élie. Ouais. Avec cela, vous ne pouvez plus rien devenir, vous ne pouvez rien devenir avec ces gens. Ils ont tous un programme plein, et tellement plein qu'il n'y a plus autre chose qui peut avoir de la place. Ils sont occupés dans leur programme. Je me rappelle alors que j'étais à Talvea avec le frère Ménette, il y a le conducteur charismatique là-bas qui m'avait dit, nous sommes très heureux de ce que vous êtes venus, mais je dois vous dire que nous avons besoin au moins de 2 à 3 heures pour notre louange, notre adoration et les cantiques. Alors, je ne sais pas si nous ne savons pas s'il y aura encore du temps qui restera pour la prédication. 2 à 3 heures. Et alors, quand j'ai dit, mais vous savez, chanter, vous pouvez toujours le faire. Vous pourrez toujours encore le faire. Mais donner la première place au Seigneur et à sa parole. Et alors, il y a eu seulement, donc, il a levé les épaules. Et non, ils ont continué comme ça à soi-disant louer le Seigneur. Bien, frères et sœurs, si ici nous disons ces choses, c'est avec une douleur dans notre âme. L'adversaire a réussi à enrouler les hommes dans plein de programmes, d'une manière qu'ils n'ont plus de temps pour vraiment s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Mais ils sont occupés à leur propre programme. Et alors, le programme est continu. Mais je vous dis que la déception sera très grande pour ces personnes quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Aussi, les versets dans le Nouveau Testament pour nous montrer que nous sommes la maison de Dieu. Tous, vous connaissez cette parole d'Hébreu, le chapitre 2, ici. Il nous a dit, ou bien alors Hébreux chapitre 3, à partir de versets 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé ou prêcher en tant que révélation, pour rendre témoignage de la révélation qui devait être annoncée. Dans la loi, il s'agissait de beaucoup, mais il s'agissait surtout ici de ce qui devait être annoncé en tant que révélation, de la révélation qui devait être prêchée. Au verset 6, alors, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » La maison de Dieu, c'est nous. Il bâtit sa propre église. Il est la pierre angulaire et nous, en tant que pierre vivante, nous sommes édifiés pour devenir une maison de Dieu en esprit. Et bien, mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas de s'élever. Si nous mentionnons de la parole de Dieu et nous nous identifions directement avec la parole, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, parle de la maison de Dieu, de l'Église, du Dieu vivant. Et il est dit, n'est-ce pas, qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Combien de fois nous devons encore le dire? Dans l'Église du Dieu vivant, et aucune interprétation n'a de la place. Elle est l'appui de la vérité. Seulement la parole de Dieu originale de notre Dieu. La semence divine originale de la parole de Dieu est semée. C'est ainsi aussi vrai que Jésus-Christ, notre Seigneur, était la semence de Dieu qui devait venir, qui a été annoncée à l'avance déjà depuis Genèse 3, verset 15, jusqu'à la dernière promesse dans l'Ancien Testament concernant cette venue. C'est ainsi, tel que le Fils de Dieu était la parole de Dieu pure. C'est ainsi que tous les fils et les filles de Dieu ne sont pas un mélange d'interprétation. Ils sont la pure parole de Dieu originale, la semence pure. Nous recevons seulement la parole de Dieu et la parole de Dieu en nous germe et produit son fruit parce que nous la croyons. C'est ainsi que nous l'avons souvent entendu. Et elle nous est révélée. Le germe de vie est dans chaque semence. Mais seulement quand la semence est semée et que le soleil, que la pluie vienne sur cette semence et que la semence meure et pourrisse. C'est seulement quand le blé, le grain de blé meurt, que le germe de vie qui est en lui quelque part caché, c'est à ce moment-là seulement qu'il sort et que la moisson est possible. Bien-aimés frères et sœurs, la récolte, ça, c'est le plan de Dieu avec l'Église. Dans la parole, par la parole, Dieu nous a, en tant que règle à suivre, donné sa parole. Soyez sincères. À quoi est-ce que ça sert aux hommes? Si à haute voix ils disent, ta parole, ici, le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe sur mon sentier et une lumière sur mon chemin. Et il continue à être des aveugles, conduisant des aveugles. À quoi est-ce que ça sert à un homme? Si il cite, par exemple, Jean 8, verset 12, et qu'il apprend cela par cœur, où le Seigneur disait, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On peut se décorer de versets bibliques d'en haut jusqu'en bas, de la tête aux pieds. Et soi-même n'a rien à voir à faire de commun avec ce qu'on écrit et ce qu'on dit. C'est peut-être raison que Dieu appelle son peuple à sortir de tous les peuples, les langues et les nations, et à nous ramener à sa parole originale pour nous amener et nous mettre en place de sa parole et de ce qu'il a révélé pour que nous ayons part à ça, à tout ce qu'il a promis et à ce qu'il fait. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de la parole de Dieu et du Seigneur et de ce qu'il a fait et ce qu'il fait. N'ayez pas honte de le témoigner, de vous prendre position pour le Seigneur. N'ayez pas honte du Seigneur si l'occasion arrive. N'ayez pas honte des promesses qu'il a données pour notre temps. N'ayez pas honte non plus de celui que Dieu a utilisé. Dieu a toujours utilisé des bouches d'hommes pour adresser sa parole à son peuple. Et ça aussi, nous l'avons souvent entendu. Celui qui croyait Abraham croyait Dieu, car Dieu avait parlé avec Abraham. Celui qui croyait Noé croyait Dieu, parce que celui qui croyait Moïse croyait Dieu, car Dieu avait parlé avec Moïse. Dieu avait envoyé Moïse. Celui qui croyait Élie croyait Dieu, car il était le prophète. Celui qui croyait Jean-Baptiste croyait Dieu, car c'était des hommes de Dieu qui avaient apparu et qui ont parlé sous un mandat divin. C'est ainsi que l'appel divin et l'envoi divin étaient la chose la plus importante. Aucun prophète et aucun apôtre ne s'est appelé lui-même ou bien envoyé lui-même. Tous pouvaient mentionner un jour où une expérience personnelle, directe, divine a eu lieu dans un jour dans lequel cela s'est passé. Résumons de quoi il s'agit. Nous pourrions aller dans 2 Corinthiens 3, dans 1 Corinthiens 3, j'ai placé le fondement parmi vous et il n'existe, aucun ne peut fonder un autre fondement en dehors de celui qui a été placé. Vous pouvez aller dans Éphésiens 2 jusqu'au verset 20, que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous pouvons aller dans Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42, à Nairobi, cela m'est arrivé. Je vous l'ai déjà dit, quelque part, je vais un jour apporter ce plateau-là, avec tous ces petits verres. Je crois qu'il y en a 40 sur un plateau avec tous ces petits verres. Et malgré tout, l'homme a lu Actes apôtres 2, verset 42, et il demeurait dans l'enseignement des apôtres, dans l'abrosure de pain. Ils n'avaient même pas de pain pour le souper du Seigneur. Ils ont comme ça renversé un sachet avec des hosties, et c'était tout. Et il n'y avait même pas de coupe. ils avaient plusieurs tableaux, plateaux avec tous ces petits verres, petits comme un pouce. Je l'ai au bureau, j'ai comme souvenir ramené un exemplaire et je me suis ramené un exemplaire. À quoi est-ce que ça sert si on lit une parole de Dieu et qu'on ne pense même pas à agir selon cette parole dans sa signification? Et c'est ainsi que, puisque nous voulons être prêts le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nous vraiment une sainte obligation de conserver la parole de Dieu et la prêcher dans sa forme originale, de revenir aux fondements antiques et à l'enseignement des apôtres et des prophètes, revenir au commencement. Et ça aussi, nous le disons dans le monde entier, la dernière prédication qui est inspirée réellement par l'Esprit de Dieu doit être telle qu'était la première. Et si aujourd'hui un homme de Dieu existe dont sa prédication est présente, il faut qu'elle soit comparable et en harmonie et en accord avec tous les autres hommes de Dieu avant lui. Ce n'était pas de la méchanceté de nous de dire que des soi-disant apôtres et des soi-disant confessions de foi qui, plus de 300 ans plus tard, ont été formulées et malgré tout, existent et que malgré tout, cela est appelé apostolique. Des confessions apostoliques qui ont été formulées 300 ans après les apôtres. Et alors, on doit dire ici que Athanase, je n'avais aucune idée des apôtres. Et tous les autres non plus, les autres pères des églises. Tous ces 250 personnes qui étaient présentes dans le concile de Nicée étaient unies et ont donné leurs idées, ont discuté là-dessus. Ils n'avaient aucune idée de ce que, en fait, un apôtre est et ce que les apôtres ont enseigné. La même chose était aussi à Chalcédon en 381. Et on peut prendre ces deux confessions. L'une est courte, l'autre est plus longue. Et à la fin, c'est ensuite devenu la confession nicéenne, chalcédienne, que toutes les églises, sans considérer quel caractère elles sont, aussi des églises pentecôtistes. J'ai rencontré visiter des églises pentecôtistes ou directement même à l'entrée de la salle de réunion, il y avait la confession nicéenne. Dès qu'on rentrait dans la salle, c'était à peu près un peu à gauche, on devait en rentrant passer devant, a écrit en gros caractère la confession nicéenne. Oh, que je puisse encore dire cela, pas pour critiquer, mais nous, en tant qu'église de Jésus-Christ, bâti sur le fondement antique, authentique, primitif, nous n'avons vraiment rien à voir avec des conciles de Nicée ou bien de Chalcédon ou bien une certaine confession de foi. Notre confession de foi, c'est les saintes Écritures, un Seigneur, une foi, un baptême, un esprit, un seul Seigneur. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4, c'est ainsi que ça demeure. Vous tous, qui avez reçu la grâce de Dieu et qui appartient à son peuple et qui dans ce temps avait écouté sa voix, venez à la parole, à l'enseignement, à la pratique qui est sortie de Jérusalem et ensuite est allée en Samarie, en Judée, en Samarie et dans le monde entier. C'est ainsi que la promesse s'intitulait et aussi l'ordre de notre Seigneur, en commençant à Jérusalem, à la Judée, en Samarie, et ensuite dans le monde entier. Encore aujourd'hui, nous avons la même prédication. Encore une seule pensée. L'Église de Jésus-Christ n'a aucune place dans n'importe quel endroit qui existe. Partout, nous l'avons encore vu, partout il y a des semaines de prière, partout tous viennent se réunir. Et on priait pour l'union des croyants, des chrétiens, pour l'union des chrétiens. Pour nous, il s'agit de l'union avec Jésus-Christ. Père, toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un. Mais c'est très proche l'un de l'autre. Écoutez, ça s'entend bien pour tous ceux qui ne connaissent pas la différence. Mais pour nous, qui avons des yeux, qui ont reçu des yeux ouverts, pour nous, cela est visible. Nous le remarquons, mais le monde entier est vraiment sous la puissance du malin et ne le remarque pas. Comme du temps des Straces, le peuple était revenu et sur les vieux fondements antiques, ils ont bâti. C'est-à-dire que Dieu a accordé sur cette terre autrefois un parfait enseignement du temps d'Estra. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que Dieu nous a révélé sa parole parfaite qui demeure éternellement. Colossiens 4, verset 12. Et cette parole produira l'effet pour lequel elle est envoyée en tous ceux qui la croient. Colossiens 1, verset 24, qui la reçoivent. Et c'est ainsi que Dieu, avec nous tous, recevra ce qui lui revient de plein droit. À lui, le Dieu Seigneur fidèle, soit la reconnaissance pour cela. Aujourd'hui, je dirais que ensemble, nous puissions remercier Dieu. Personne n'a besoin, il y a quelqu'un qui était un peu trop à haute voix tout à l'heure, personne n'a besoin de lever la voix plus que les autres. Nous voulons aussi dans la prière que nous puissions aussi dans la prière trouver une harmonie. Pour trouver une harmonie dans la vérité et dans l'adoration. Et c'est ainsi que Dieu produira tout le reste en nous par sa grâce. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration, maintenant et dans toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Peut-être que les sœurs ont encore un cantique que nous pourrions chanter. C'était Colossiens 1, verset 25. Peut-être qu'elles ont un cantique que nous pourrions qu'elles pourront chanter. Et ensuite, nous allons ensemble, de tout notre cœur, remercier Dieu pour qu'il puisse nous faire grâce, nous remercier de ce qu'il nous a fait grâce de cette manière. Oui. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Il sait tout ce que je pense et tout ce que je fais. Jusqu'à ce que je me repose dans ses bras. Laisse la tempête menacer. Je regarde seulement au ciel où les étoiles se tiennent. Un jour, tout cela passera et sera terminé. Toute cette bataille et ce combat, et alors je serai auprès de Jésus dans la gloire. Une fois, j'étais profondément dans le péché. Et subitement, j'ai entendu la parole de la croix. J'ai entendu que pour moi, pauvre pécheur, le Seigneur mourut. Quelle grâce! Cœur, qu'est-ce que tu veux de plus? Laisse la tempête menacer et le vent souffler. Je regarde seulement vers le ciel où les étoiles se tiennent. Une fois tout cela sera terminé et le combat cessera, alors je serai auprès de Jésus dans la gloire. Une heure. Cette heure frappera pour les jeunes et les âgés et les vieux. Alors, la grâce ne sera plus à trouver. Alors, ceux qui l'ont foulée au pied la chercheront. Oh, ami, écoute, car à ce moment-là, ce sera déjà trop tard. Merci. Bientôt, comme ce sera merveilleux, nous pourrions aussi entendre ce cœur. Bientôt, comme ce sera merveilleux. Bientôt, comme ce sera merveilleux. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons aujourd'hui vraiment de tout notre cœur croire et prendre Dieu à sa parole et appartenir à ceux qui, ou alors, eux-mêmes ont des problèmes, sont fatigués et chargés et viennent au Seigneur, ou alors, avec les problèmes d'autres. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, au verset 28, connu de tous, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. » La question, qui est aujourd'hui fatigué, qui est chargé? Quel est ton fardeau? Qu'est-ce qui te fatigue? Nous voulons ensemble remettre au Seigneur ce fardeau. Tous vos soucis, remettez-lui vos soucis. Il prend soin de vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est Dieu dans sa parole. C'est ainsi que nous voulons commencer réellement à croire de manière biblique et à agir de manière biblique. Venez à moi, pas à un homme et au prédicateur et à l'évangéliste. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Une question, et ensuite nous chantons tout de suite, crois seulement, qui est fatigué, qui est chargé? Je crois que il y en a sûrement beaucoup, certains parmi nous. Nous voulons aujourd'hui, dans la foi, recevoir et venir au Seigneur. Lui remettre toutes choses entre ses mains, il rendra toutes choses merveilleuses. Chantons, crois seulement,
Love you, I
Combien croit ce que nous avons chanté? C'est la promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela est venu de sa bouche. Et nous avons la promesse que là où deux deviennent un, qu'ils recevront tout ce qu'ils demandent. Nous voulons aujourd'hui croire et dans la foi demander et prendre Dieu à sa parole. Peut-être qu'il y a encore un verset biblique qui s'ajuste à ça de Marc, le chapitre 11. Marc chapitre 11, ce verset connu. Marc 11, verset 24 et 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. L'avez reçu. C'est ainsi que vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Nous voulons aujourd'hui faire comme la parole de Dieu nous l'a dit ici. C'est ainsi que nous serons exaucés. Ce n'est pas possible autrement. Ça, ce sont les promesses que Dieu, dans sa parole, a faites. Nous voulons ensemble maintenant prier, croire et recevoir. Père bien-aimé, toi Dieu éternel, nous te remercions ensemble pour toutes les promesses qui sont oui et qui sont amen. Nous te remercions de ce que aujourd'hui encore tu es parmi nous et que aujourd'hui encore par ta parole tu as parlé avec nous. Aujourd'hui, nous croyons tel que tu l'as dit et nous te demandons le pardon et la grâce et le salut et nous pardonnons tous ceux, fondamentalement tous ceux qui nous auraient offensés. Nous les pardonnons de tout notre cœur et nous te demandons encore une fois, pardonne-nous, fais-nous grâce. Accorde la guérison, la délivrance, fais des miracles. Tu es le même, hier et aujourd'hui, et éternellement. C'est à toi que nous disons merci pour toutes les bénédictions, pour toutes les prières que tu as exaucées, et pour maintenant, car tu l'as fait, et que tout le peuple dise Amen. Alléluia. Alléluia. Recevez-le de la part de Dieu dans la foi. Dans ses maîtres sûrs, tous sont guéris. Tous ceux qui aujourd'hui ont été apportés au Seigneur, il s'est porté garant pour cela. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur, gloire et adoration éternellement. Alléluia. Alléluia. Chantons encore avant de nous asseoir. Tu es digne. Tu es digne de recevoir. gloire et honneur. Et encore, je l'aime, je l'aime. L'agneau de Dieu qui m'a aimé le premier est mouru pour moi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.